Michel Denisot, un podcast Europe 1.
Leïla Slimani, bonjour.
Bonjour.
Les icônes de votre vie, est-ce que ce sont les personnages de vos romans ?
Oh non, je crois que les icônes de ma vie, ce sont plutôt des personnes que j'ai connues en chair et en os, que j'ai rencontrées et qui m'ont ensuite inspiré des personnages qui les ont nourris. Mais je préfère quand même la vraie vie.
Mais votre Mathilde, par exemple, votre grand-mère, n'est pas une icône pour vous ?
Bah, ma grand-mère, qui s'appelait Anne, était une icône. Après Mathilde, elle est née de mes souvenirs de ma grand-mère et elle est née aussi de mon imagination. Mais il y a toujours, en fait, quand même plus dans le réel que dans la fiction, en tout cas d'admiration. J'ai de l'amour pour mes personnages, mais de l'admiration pour les vrais gens.
Alors, pour qui avez-vous de l'admiration ?
J'ai de l'admiration pour les gens bons, les gens qui sont capables de manifester de la bonté à l'égard des autres, qui passent leur temps et qui se consacrent aux autres, qui veulent les soigner, qui veulent leur faire du bien. C'est pour ça que là, par exemple, j'ai fait cette bande dessinée sur un personnage de soignante, parce que moi, j'ai été élevée par des médecins, et que c'est vrai que c'est des gens qui me touchent beaucoup.
Le destin de Suzanne Noël, dont vous parlez, dont vous avez fait une bande dessinée avec Clément Houbrerie, et qui est publiée aux éditions Les Arènes. Ce personnage, c'est une femme qui était précurseur, qui était féministe, qui était dans la médecine très tôt, alors qu'il y avait très peu de femmes au début du siècle.
Oui, c'est une femme tout à fait anticonformiste, une femme en avance sur son époque et en même temps profondément de son époque, c'est-à-dire une femme qui comprend tous ceux qui sont en train de développer le cubisme, qui développe la science aussi à cette époque, toutes les innovations. Et c'est une femme qui sent qu'elle a un destin à accomplir et qui donc va d'une certaine façon imposer à tous ceux qui l'entourent sa vocation qui est la médecine et plus particulièrement la chirurgie, ce qui à cette époque est très très subversif parce que même si on accepte l'idée que les femmes puissent à la limite soigner les enfants et les personnes âgées, l'idée qu'elles puissent ouvrir un corps est en revanche absolument pas acceptable à cette époque.
Comment avez-vous eu connaissance de l'existence de Suzanne Noël ?
Bien, à cette époque, c'était il y a un an et demi à peu près, je m'intéressais beaucoup à la question de la chirurgie esthétique parce que je trouve que ça pose beaucoup d'interrogations quand on est féministe, cette question de la chirurgie esthétique. Donc je lisais beaucoup de livres dessus et plusieurs fois le nom de Suzanne Noël est ressorti comme étant une des fondatrices de la chirurgie esthétique, non seulement en France mais dans le monde. Et quand je me suis un petit peu plongée dans sa biographie, j'ai été fascinée et puis vraiment, je suis presque tombée amoureuse d'elle, de son destin très très romanesque. Et puis de sa force surtout.
Vous avez fait le cours Florent, vous avez fréquenté le cours Florent. Est-ce que vous vouliez donc à un moment donné peut-être devenir comédienne, j'imagine. Est-ce que dans le monde des actrices, des acteurs, vous avez des icônes ?
Oh oui, j'en ai beaucoup. Parce que je crois que mes premières icônes c'était des icônes de cinéma. Moi j'aime beaucoup j'avais des parents extrêmement cinéphiles qui ont tous les deux dans les années 60 je pense passé la moitié de leur jeunesse dans des ciné-clubs et qui ensuite nous ont montré beaucoup de films à la fois de l'âge d'or d'Hollywood puis ensuite des films italiens puis bien sûr des films français. Mais mes icônes c'était Sid Charis, c'était Audrey Hepburn, c'était évidemment Marilyn Monroe. Isabelle Huppert a été aussi et toujours d'ailleurs une de mes icônes. Donc oui, il y avait aussi des acteurs. James Stewart, c'était vraiment une icône aussi pour moi. Je voulais lui ressembler, je voulais être comme lui.
Ah oui ?
Oui, plutôt je le trouvais extraordinaire. Je le trouve toujours extraordinaire. Oui, mais je sais pas. Je me dis que c'est pas parce que c'est un garçon que je ne peux pas m'identifier à lui. J'aimais son élégance, j'aimais son flegme. Je le trouvais très racé. Je trouve que c'est un immense acteur.
Est-ce que parmi vos icônes, vous en avez rencontré Isabelle Huppert, par exemple ?
Oui, Isabelle Huppert, je l'ai rencontrée. Enfin, je l'ai croisée. On peut pas vraiment dire. Je sais pas si on peut dire rencontrée. Et j'ai été, très surprise et très enchantée par la simplicité avec laquelle elle s'est adressée à moi. Puis c'est quelqu'un qui lit beaucoup, qui s'intéresse beaucoup à la littérature. Donc c'est très agréable de parler de littérature avec elle.
Est-ce qu'il y a des gens qui ont compté dans votre vie, dans votre vie personnelle ou dans votre vie d'écrivain, qui sont devenus des icônes ou qui ont une sorte de rang spécial ? Par exemple, je pourrais citer Jean-Marie Laclavenite.
Oui, Jean-Marie, c'est mon éditeur qui est bien sûr, qui occupe une place très très importante dans ma vie parce que au-delà du fait d'avoir été mon éditeur, c'est vraiment la personne dont j'ai le sentiment qui m'a découverte et puis qui m'a accompagnée à chaque pas dans les moments qui sont les moments de coulisses, tout ce qu'on ne voit pas de l'écriture, c'est-à-dire tous les moments de doute, les moments où on n'y arrive plus, où on est bloqué et c'est lui, le pauvre, qui doit supporter les longs appels téléphoniques ou bien, les moments de grande mauvaise humeur. Donc je lui dois énormément.
Vous avez une trajectoire peu commune, puisque vous avez une réussite très, très rapide, très jeune, avec vos premiers romans, en particulier évidemment Chanson douce, qui a eu le prix Goncourt il y a 4 ans. Et au début, quand vous avez envoyé votre premier manuscrit, tout le monde l'a refusé. C'était juste 3 ans avant.
Bah oui, mais je crois que c'est de ça qu'est fait, j'allais dire, à la fois la vie en général et puis la vie d'un écrivain. On met du temps à trouver sa voix VOIX, à trouver son style, à savoir quelles histoires on peut raconter. Au début, quand on se met devant une table, c'est ça qui est très très difficile. Moi, j'ai par exemple, je parle souvent avec Salman Rushdie qui est devenu un ami. Je discute souvent avec lui. Il m'a dit qu'au tout début de sa vie d'écrivain, il savait pas qui il était et il a essayé plein de styles différents, des romans historiques, des romans policiers, et puis à chaque fois ça marchait pas. Et je crois que c'est ça le plus difficile en fait dans la vie d'un écrivain, c'est ce démarrage et réussir à savoir dans quel domaine, dans quel monde, dans quelle atmosphère on va pouvoir le mieux faire transparaître ce qu'on est et puis notre singularité finalement.
Dans le monde des écrivains, quelles sont vos icônes ?
Bah, Salman Rushdie est une de mes icônes, Philippe Ross, Joyce Carol Oates, et puis deux femmes extraordinaires, je dirais même 3 femmes extraordinaires, Ludmila Ulitskaya, qui est une écrivaine russe, Svetlana Alexievitch, la prix Nobel, et puis Toni Morrison. Ce sont vraiment 3 femmes qui ont énormément compté pour moi.
En dehors du cinéma et de la littérature, dans le monde de la musique, dans d'autres univers, la peinture, est-ce que vous avez des icônes ?
Alors dans le monde de la musique, je dois avouer que j'en ai pas tellement parce que je suis un peu nulle en musique à part le jazz que j'écoutais beaucoup avec mes parents, donc des gens comme Nina Simone, des gens comme Chet Baker, enfin toute aussi cette génération de jazzman et de chanteuses, Billie Holiday par exemple, pour moi c'est vraiment une icône, c'est des gens aussi qui ont eu des destins brisés. Du fait de leur couleur de peau, du fait de la violence de l'Amérique dans laquelle ils ont grandi. Donc ça, c'est des gens, c'est vrai, qui m'ont beaucoup, à la fois que j'admire beaucoup et dont la musique m'a beaucoup imprégnée. Et puis dans la peinture, il y a un peintre qui me fascine et qui m'intéresse énormément, c'est Gerhard Richter, le peintre allemand, qui m'intéresse par son mystère, par son étrangeté, par le fait aussi que voilà, il a ce rapport aux médias qui est un rapport très lointain, et ça me fascine beaucoup.
Dans les personnages historiques qui ont marqué l'histoire du monde contemporain ou avant, ici ou là, quels sont les noms qui vous viennent à l'esprit ?
Moi, je suis fascinée par les figures qui sont les figures de la démesure, alors qu'elles soient de la démesure dans le bien ou de la démesure dans le mal. Donc, évidemment, toutes les grandes figures de dictateurs ou de grands oppresseurs, de manière générale, m'intéressent, parce que je crois que n'importe quel écrivain, surtout quelqu'un comme moi qui a été formé et fasciné par Dostoïevski ou ses écrivains russes, je suis fascinée par les figures du mal, donc qu'elles aillent de Hitler à Mao Tse-tung, en passant par Ceausescu, la question de comment est-ce qu'on peut passer des années à vouloir détruire l'humanité, faire la guerre, faire le mal, ça me fascine. Mais à l'inverse aussi, je vous dirais que des figures très très solaires, comme Barack Obama par exemple, ou comme Nelson Mandela, sont aussi des figures qui me fascinent, parce que d'un côté comme de l'autre du spectre, le fait qu'on puisse consacrer sa vie entière soit à essayer de faire le bien, soit à tout faire pour faire le mal, m'intéresse.
Vous pourriez écrire un livre dont le héros serait un monstre ?
Oh oui, j'aimerais beaucoup ça, oui, un monstre, même si je crois pas tellement aux monstres, parce que dès qu'on écrit sur eux, on se rend compte qu'en fait ce sont pas des monstres, que ce sont des êtres humains. Ce qui est fascinant avec les monstres, c'est que dès qu'on se penche sur eux, on finit par trouver plein de choses qu'ils ont en commun avec nous. On se rend compte qu'ils ont été des enfants, qu'ils aiment la confiture de fraises, qu'ils adorent se balader pieds nus dans l'herbe au printemps. Et en fait, ils sont très semblables à nous. Et donc, le monstre nous échappe et on finit, même bien malgré soi, à faire surgir l'humanité qu'il y a en eux.
Après la BD à main nue, vous écrivez sur quoi ?
En janvier, je vais sortir un essai chez Stock sur une nuit que j'ai passée enfermée dans un musée et qui a suscité chez moi des réflexions sur l'enfermement, sur la littérature, aussi bien sûr sur mon père et l'expérience de la prison qu'il a vécue et la façon dont je l'ai moi-même vécue. Et puis ensuite, je me mets à l'écriture de la deuxième partie de ma trilogie, puisque mon dernier roman, Le Pays des Autres chez Gallimard, était la première partie d'une trilogie. Ouais. Donc là, je me plonge dans les années 60, donc il y aura un peu plus de rock, un peu plus de jazz que dans le premier.
Vous étiez enfermée dans quel musée, au Louvre ?
J'ai été enfermée à Venise, à la Punta della Dogana, la pointe de la douane, qui est un musée splendide.
Pendant combien de temps ?
Pendant une nuit entière, voilà.
Seule ?
Absolument seul, enfin avec un gardien, mais qui n'était pas dans la même pièce que moi, qui était enfermé dans son petit bureau, où je suppose qu'il pouvait me voir à travers des écrans. Mais donc j'étais seule et j'ai pu déambuler dans tout le musée, toute la nuit, toute seule, parler avec les fantômes et avec les œuvres qui étaient autour de moi.
Comment vivez-vous le confinement ?
Ça dépend des jours. Il y a des jours où j'y pense pas parce que je suis dans l'écriture, parce qu'il y a mes enfants, parce qu'on doit faire les devoirs, parce qu'il y a plein de choses à faire. Et d'autres jours où c'est plus difficile. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est pas tellement ma personne, mais c'est ce qui se passe autour et le sentiment de voir tellement de gens, enfin pas le sentiment, d'ailleurs la réalité qui est celle de tellement de gens qui souffrent terriblement de cette situation et qui décrochent, et l'immense pauvreté dans laquelle plongent les gens, c'est ça qui à la fois m'inquiète et me bouleverse le plus.
Vous avez quitté les réseaux sociaux il y a quelques semaines, vous vous sentez mieux ?
Ah oui, je me sens mieux, je me rends compte. D'abord, au tout début, vous avez cette espèce, c'est comme, vous savez, quand vous essayez d'arrêter de fumer, et puis vous avez ce tic de porter la cigarette à votre bouche, une cigarette imaginaire, bah, c'est un peu pareil, vous ouvrez votre téléphone et vous dites, tiens, je vais aller regarder, bah non, il n'y a plus l'application, et en fait, c'est un très grand soulagement, on gagne quand même beaucoup de temps, et on se rend compte qu'on était pollué par plein de petites choses inutiles, à la fois des contrariétés parfois inutiles. Et puis c'est très bien aussi de vivre un peu dans son monde et de ne pas chercher toujours à être vu, adoubé, aimé, compris, faire rire les autres ou les provoquer. C'est bien aussi de vivre juste chez soi et pour les siens.
Est-ce que c'est définitif ou est-ce que Leïla Slimanette, que j'aimais beaucoup sur Instagram, reviendra ?
Je crois que c'est définitif. En même temps, j'aime pas dire. Je n'aime pas les choses définitives. Donc voilà, c'est une décision que j'ai prise normalement pour toujours, mais on ne sait jamais.
Merci beaucoup, Leïla Slimani.
Merci à vous.
Icône est un podcast Europe 1 présenté par Michel Denisot. Réalisation Corinne Reich. Programmation Claire Dutronc. Retrouvez Icône chaque semaine sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1 et vos plateformes habituelles.